Les lumières du festival. Chronique quotidienne du festival Lumière. Jour 4, mercredi 12 octobre.
Bonsoir, bienvenue pour cette quatrième chronique du festival Lumière sur Transistor. Nous sommes de nouveau avenue Berthelot avec Pierre. Pierre qui a vu tout à l'heure Break-up, érotisme et ballon rouge de Marco Ferreri.
Exactement, alors donc c'est encore un film italien, donc je peux encore mal en parler parce que je ne connais toujours pas le cinéma italien. Mais alors là, celui-là il est un peu particulier parce qu'il est de, je crois, milieu des années 60 et en fait il est... Enfin, il pousse la subversion assez loin par rapport aux films de, je sais pas, des mêmes dates en Europe. Enfin, en tout cas, ce que j'en connais, parce que je n'ai pas des connaissances exhaustives non plus. Mais... Et très... ouais, je crois que d'ailleurs, il est très mal passé à l'époque, que personne n'a vraiment voulu le diffuser, qu'il a été réduit au format de 25 minutes, que finalement, c'est la Warner Bros. Qui l'a racheté. Et maintenant qu'il y en est encore, je crois que c'est encore les Américains qui ont les droits actuellement sur le film, qui a été restauré bon, par la Cinémathèque de Bologne entre-temps. Mais voilà, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas énormément vu au cinéma.
Et ouais, du coup, ça raconte quoi?
Alors, ça raconte quoi? C'est l'histoire de... Alors, le personnage principal, c'est Mastroianni. Et l'histoire, c'est... Bah, ce type-là qui devient fou, en fait, qui développe une obsession pour les ballons baudruches. C'est-à-dire que le film commence par lui qui est chef... Il est patron, chef d'entreprise. Il dirige une industrie de fabrique de bonbons. Et en fait, quelqu'un vient et quelqu'un est dans son bureau en fait pour essayer de lui faire, enfin de lui vendre un lot de ballons baudruches pour faire sa publicité en fait. Et lui sur le coup l'écoute pas trop et l'autre lui donne pour essayer de le fidéliser un petit peu ou de le convaincre d'acheter ses produits, lui file une quinzaine de ballons. Et l'autre, du coup le personnage principal s'amuse un petit peu à les gonfler au début et en fait ça devient complètement une obsession. C'est-à-dire qu'il se demande quelle est la limite exacte de contenance du ballon. C'est-à-dire qu'il ne peut pas supporter l'idée de ne pas gonfler le ballon jusqu'au bout, puisqu'il aurait l'impression d'en perdre quelque chose, et en même temps, il ne supporte pas, à chaque fois que le ballon éclate, ça le rend de plus en plus fou en fait, au fil du film. Donc la fin, je la raconte pas. Alors je crois que le film se passe en une journée, donc c'est un samedi de l'histoire de la vie de ce type-là qui par ailleurs a tout pour lui, c'est-à-dire chef d'entreprise, ça marche extrêmement bien, il a une femme magnifique qui l'attend sagement au foyer toute la journée
l'idéal des années 60.
Voilà, exactement, mais c'est très critique, très subversif, enfin il y a un peu de charge aussi contre la société de consommation au passage, enfin c'est très subversif et l'érotisme, c'est parce qu'il y a... L'érotisme est un peu omniprésent, il y a une scène d'une fête un peu orgiaque dans je sais pas quelle boîte de nuit milanaise, parce que ça se passe à Milan, où le thème c'est ballons gonflés à l'hélium, et donc il y a des filles nues qui sont planquées au milieu des ballons, enfin c'est très drôle, c'est très acide aussi, et... Non, voilà, alors je sais pas trop quoi en dire de plus.
Un film sur le thème des ballons.
Voilà, un film sur le thème des ballons et d'une espèce d'obsession complètement montante et complètement incompréhensible en fait, parce qu'il y a à aucun moment le souci n'est pas réaliste en fait. Je sais pas exactement quoi en penser en fait. C'est pas filmé avec réalisme la psychose d'une personne qui devient dingue. Alors il y a une très bonne musique de ce groupe norvégien qui s'appelle Ylvis. La musique s'appelle Stonehenge. Et c'est à peu près ça, c'est une obsession absurde d'une personne qui a un peu tout réussi et qui lui pourrit littéralement la vie.
Eh bien, un film dont nous sortons à l'instant et où il y a beaucoup moins de ballons. Et où on s'amuse sans doute beaucoup moins.
Oui.
Lettre d'une inconnue de Max Ophüls, chef-d'œuvre s'il en est, après c'est un avis très personnel. Mais alors du coup, je sais pas, est-ce que tu peux peut-être résumer vite fait
Encore, ouais.
Je m'y mets sinon. Hein.
Oh bah, Bon, non, mais je peux faire le résumé, tu feras l'analyse philosophique après. Non, mais du coup, c'est tiré d'une nouvelle de Stefan Zweig. Et l'histoire, c'est alors un compositeur, musicien en fait.
Pianiste.
Non, oui, pianiste, oui, n'importe quoi, compositeur. Pianiste qui a connu la célébrité, puis qui s'en est lassé, parce qu'il n'a pas trouvé là-dedans, dans ce succès, une sorte de chose qu'il espérait un peu inconsciemment et qu'il n'est jamais arrivé à trouver, un peu raté, un peu lâche, quand bien même assez... derrière une célébrité de façade, quelqu'un qui n'a pas une grande estime de lui-même finalement peut-être, et qui trouve en rentrant chez lui après une provocation en duel, une lettre qui commence par « À l'heure où vous me lirez, je serai sûrement déjà morte ». Et voilà, donc c'est le film en fait tient en 2 heures, où c'est la lecture de cette lettre par ce personnage. Donc lettre écrite par... Par une inconnue, pas complètement inconnue finalement, mais qu'il avait oublié, quoi. Bon, je te laisse embrayer.
Mais alors, cette inconnue, c'est une jeune fille qui l'a suivie toute sa vie et dont lui n'a rien retenu.
Il en a rien retenu, mais pourtant, il y a... Enfin, c'est celle aussi qu'il a attendu toute sa vie. C'est ce qui lui manquait. Enfin, c'est ce qu'il lui dit à un moment... c'est cette personne, cette présence qui sûrement l'a...
Qu'il l'a cherché toute sa vie et qu'il n'a pas su trouver quand elle était là.
Voilà.
Et donc l'histoire vue depuis le regard de cette femme à travers la lettre, de cette femme qui depuis la fin de son enfance en fait a suivi cet homme petit à petit, l'a rencontré quelquefois à l'occasion de quelques instants de grâce ou de disgrâce absolue. C'est des moments qui sont comparés à des montagnes que l'on escaladerait à un moment du film. Il y en a toujours une plus haute qui suit, on l'espère, mais une fois qu'on est arrivé en haut, on redescend, et c'est un petit peu cette histoire-là aussi, ce film, et c'est avant tout un grand mélo hollywoodien avec ce personnage central de femme désespérée, avec le personnage de l'homme trop faible pour assumer tout le désespoir de cette femme et pour réussir à renverser la situation. Alors c'est un film que j'avais déjà vu, que j'avais déjà trouvé absolument splendide à l'époque, et mon jugement ne s'est pas altéré d'un iota ce soir. Zweig était peut-être le maître de l'émotion en littérature. Ophuls l'était au cinéma, et l'union des deux produit un morceau qui tient vraiment du chef-d'œuvre, avec John Fontaine qui est extrêmement juste dans son interprétation. Je sais pas si tu en as pensé la même chose.
Ah oui, bon, mais si, moi c'était la première fois que je le voyais, mais le film ayant une réputation, forcément. Forcément, j'en attendais quelque chose, mais c'est vrai que ouais.
Et oui, il y a vraiment tout le grand mélodrame qui est là-dedans. C'est d'une tristesse qui submerge sur les dernières images. Au moment
ouais, la fin,
où
la fin est incroyable.
La fin est d'une puissance assez terrible. On l'attend d'ailleurs tout au long du film. Et les 3 dernières minutes. Sont vraiment un déferlement total d'émotions pour ce film qui est encore projeté d'ici la fin de la semaine, chers auditeurs.
Et d'ailleurs, alors non, mais c'est marrant, bon, je voulais pas en parler, mais c'est vrai que là j'y pense, en fait la construction ressemble beaucoup à celle de Le jour se lève en fait de Carnet, du coup, parce que c'est
que t'as vu hier,
que j'ai vu hier du coup, mais c'est le même format, enfin pendant le... C'est du flashback. Bon, là, c'est dans Lettre d'une inconnue, c'est un flashback médié par cette lettre qu'il lit pendant les 2 heures, 1h30. Dans Le jour se lève, il n'y a pas de médiation, c'est directement Jean Gabin, enfin, je ne sais plus son nom, François, Monsieur François. C'est marrant du coup, parce que je me souviens plus la personne qui présentait Le jour se lève, mais qui disait c'était un film qui avait créé, qui avait un peu fait, pas école, parce qu'il ne s'agit pas d'école, mais qui avait inspiré énormément d'autres films derrière. Alors il disait le, le flashback par exemple, qui donc est la clé du film Le Jour se lève, je crois que, enfin, ils avaient l'air de dire que c'était un des premiers films à y recourir. Et ils disaient, bah voilà, Citizen Kane, qui est généralement cité comme le film qui a mis le flashback à l'écran, bah, c'est 2 ans après. Et là, pareil, voilà, c'est le même format, quoi. Bon, à part que dans Le Jour se lève, il y a une véritable alternance. C'est-à-dire que la période présente a aussi des actions qui sont entrecoupées par ses souvenirs, qui se juxtaposent. Voilà, mais bon, enfin bon, film incroyable aussi. Hein, mais,
À voir aussi Le Jour se lève.
Ouais,
donc.
Ouais, bah.
Et bien voilà, pour ceux qui ne sauraient pas quoi faire de leur week-end, petit week-end sur le thème du flashback, donc avec Lettre d'une inconnue de Max Ophüls et Le Jour se lève de Marcel Carné au Festival Lumière. C'était Les Lumières du Festival, une émission coordonnée par Rémi Cerda avec aujourd'hui Pierre Lebrun. Around, spreading the cheer, singing the jubilee blues.